Bonsoir, bonsoir chers auditeurs, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle méditation sur les femmes dans, et la femme dans le cœur de Jésus. Voilà, alors aujourd'hui, nous allons rencontrer une autre figure de femme et nous allons voir comment la relation qu'elle établit avec le Seigneur est une relation qui est réellement cœur à cœur. Mais avant, je voudrais avec vous juste avoir quelques petites réflexions, quelques remarques qui vont vous permettre peut-être de mieux comprendre la façon dont nous allons avancer. Vous avez certainement remarqué, et on le dit souvent, que les évangiles sont assez avares de précisions sur les sentiments personnels, sur les petits détails de la vie. L'exemple le plus célèbre que l'on ait est celui qui concerne la vie et la mort de Joseph, par exemple, dont nous ne savons pas grand-chose, nous n'en savons rien, nous n'avons aucune parole de Joseph qui nous soit donnée par les évangiles. Ce que nous savons concerne uniquement la nativité et le mariage de Joseph et Marie. Mais voilà, nous ne savons pas quand est-ce que Joseph est mort, comment. Tous ces détails-là nous frustrent un petit peu, mais ils ne sont pas dans les évangiles. Nous ne savons pas quelle a été l'enfance réellement de Jésus, son adolescence, sa vie d'homme, puisque jusqu'à 33 ans, il est ce que l'on appelle avec sa vie cachée. Nous ne savons pas s'il a appris le métier de charpentier, est-ce qu'il l'a appris, est-ce qu'il l'a pratiqué. Voilà, de tout cela, nous ne savons rien. La seule chose qui nous est donnée par les évangiles, c'est que Jésus grandissait en sagesse et en grâce devant Dieu et les hommes. Comme si cela devait nous suffire pour méditer sur la condition terrestre de Jésus. Voilà, donc Jésus, lui, effectivement, il était désigné comme le fils du charpentier. Dans les évangiles, on nous dit que c'est effectivement le fils de Joseph. Mais rien de tout cela ne nous donne beaucoup d'informations. Alors pourquoi est-ce que je vous dis cela? C'est parce que cela nous permet de comprendre que chaque détail du texte des évangiles est précieux. Cela nous permet, me permet d'insister sur le fait que rien dans les évangiles n'est écrit par hasard. Il n'y a rien qui soit le résultat d'une volonté de finir une phrase comme il faut ou de remplir je ne sais quel vide. Non, tout ce qui est dans les évangiles donc n'est pas le fruit du hasard. Toutes les précisions que nous voyons nous permettent d'avancer dans la découverte des paroles et des actes de Jésus. Et pour ce qui nous concerne, nous allons voir comment est-ce que certains détails qui peuvent paraître insignifiants nous font découvrir tout un monde et nous font découvrir finalement la façon dont Jésus porte les femmes dans son cœur. Alors aujourd'hui, je voudrais avec vous relire l'un de mes épisodes préférés, à vrai dire. C'est un épisode que l'on peut lire dans les trois évangiles de Luc, de Matthieu et de Marc, hein, que l'on appelle les évangiles synoptiques, parce que on peut les mettre en synopse, en relation les uns avec les autres. Ils ont des textes communs, même si parfois ils sont différents les uns des autres. Mais voilà, cet épisode est celui que l'on appelle l'épisode de la femme hémorroïs. Cet épisode, donc, est dans les trois évangiles, même s'il y a quelques différences dans les textes, nous verrons ça au fur et à mesure. Mais pour que ça ne soit pas trop compliqué dans le temps qui nous est imparti, nous allons nous référer plus particulièrement au texte de Luc que vous pouvez lire au chapitre 8 à partir du verset 43. Hein, donc nous allons plus particulièrement nous référer à celui-là, même si de temps en temps je citerai comment dire, des éléments qui sont dans les autres versions de ce texte. Donc, la première chose qui est essentielle avant d'aborder vraiment ce texte est de remarquer que Luc est un évangéliste qui donne une place toute particulière aux femmes. C'est l'évangile de Luc et l'évangile dans lequel on a le plus de récits, de rencontres entre Jésus et les femmes. C'est le seul évangile dans lequel nous avons une description de l'entourage de Jésus, hein, un petit peu avant notre texte. On nous dit que les femmes entouraient Jésus. Il y avait Marie la Magdaléenne, Jeanne la femme de Chouza, Suzanne et plusieurs autres qui assistaient Jésus et ses apôtres, qui les assistaient de leur bien, qui les entouraient, qui les aidaient d'une certaine façon. Alors, la femme hémorroïse, de quoi s'agit-il? Le texte nous dit, voilà une femme qui perd du sang depuis 12 ans. On apprend qu'elle a consulté tous les médecins possibles. Alors, le détail est plus dans l'évangile de Matthieu, mais le texte de Luc nous dit qu'elle avait, alors exactement, nul n'avait pu la guérir. Nous verrons un petit peu plus loin que dans le texte grec, il y a un petit peu plus de précision. Disons que nous savons que cette femme, finalement, a consulté tous les médecins possibles, sans aucun résultat. Et même, parfois, avec un résultat qui est encore pire, puisque chez Matthieu, on dit qu'elle avait souffert des médecins et qu'elle avait perdu tout son avoir. Voilà un détail qui paraît peut-être presque folklorique, mais qui ne l'est absolument pas. Et c'est là où nous disons que les détails doivent nous mettre la puce à l'oreille parce qu'ils nous enseignent quelque chose. Donc, quelle est cette femme hémorroïse? La première chose donc, que nous savons, c'est qu'elle perd du sang. Vous savez tous, je suppose, parce que c'est quelque chose que l'on entend, vous savez que dans la loi juive, le sang revêt une grande importance et une très grande signification. On voit en effet qu'une femme qui perd du sang de son épisode menstruel, hein, eh bien cette femme qui a des pertes de sang est d'une certaine façon mise à part du reste de la maison. Il y a dans l'Ancien Testament deux livres qui nous donnent de façon précise les directives de loi pour la vie courante, qui sont donc ces deux livres qui sont le Lévitique, il y a aussi le Nombre. Voilà. Et dans le Lévitique, donc, il est dit qu'une femme qui a des pertes de sang, eh bien, ne peut rien toucher qui ne devienne impur. Vous voyez qu'au chapitre 15 du Lévitique, il est bien précisé que tout ce que touche la femme devient impur, que ce soit le lit, que ce soit la chaise, que ce soit tout objet de la maison. Hein, cela nous fait bien comprendre que le sang a un statut extrêmement particulier. Dans le Deutéronome, il nous est précisé que le sang est le lieu de l'âme et le lieu de la vie. Et que donc, il convient de ne pas le toucher, il convient de ne pas manger l'animal qui n'a pas été saigné. Hein. C'est de ce principe qui est issu, le principe de la viande que l'on appelle maintenant cachère, c'est-à-dire qu'il faut que l'animal soit saigné et il faut que son sang ait été dispersé dans la terre, pour qu'il n'y ait pas de mélange entre l'âme, le sang, la vie de l'animal et l'âme de l'homme. Donc cette femme, elle est impure, elle perd du sang, et lorsque l'on sait quelle est la valeur du sang dans la loi juive, on comprend que en fait cette femme qui perd du sang, c'est comme si c'était sa vie elle-même qui s'échappait de ses entrailles. Cette femme, elle perd sa vie. Sa vie échappe, sa vie la quitte de façon constante. Donc, d'une part, elle a une vie qui s'échappe de ce corps, qui s'échappe de ses entrailles. Et de plus, le lieu de ses entrailles, le lieu de cette vie, qui est aussi le lieu de l'enfantement, ne peut plus remplir son rôle. Cette femme perd sa vie. Et en même temps, est une femme qui a un sein stérile. Donc, vous voyez que cette femme hémorroïs, elle n'est pas désignée comme ayant une maladie comme une autre, mais elle est désignée comme souffrant d'un mal extrêmement grave. Elle est, on pourrait dire que cette femme, eh bien, elle est soumise à ce qu'on pourrait appeler une double peine. C'est-à-dire que le lieu de la vie chez elle s'est transformé en lieu de maladie et donc en lieu de mort. Hein, ce qui était le lieu de la vie, ce qui était la vie, est devenu lieu de la maladie et de la mort. Première peine. Et de plus, non seulement elle vit cette comme cette malédiction, mais de plus, elle est retranchée de la communauté à cause de son état. Elle ne peut plus accomplir les exigences de la loi pour la purification, puisque cette perte de sang est constante. Donc, elle est, vous voyez que c'est une femme qui est vraiment soumise à une double peine. Et le statut de cette femme est tout à fait particulier. Donc, c'est le premier prétendu détail sur lequel je voulais m'arrêter avec vous lorsque l'on évoque cette femme hémorroïs. Vous voyez que ce n'est pas anodin, ce n'est pas comme si elle avait une autre maladie. La maladie qu'elle porte est une maladie qui atteint tout son être dans ce qu'elle a de plus profond. Hein, les détails donnent de cette femme une description qui est la plus intime possible. On apprend en plus qu'elle s'était tournée vers des médecins qui l'avaient ruinée sans la soigner. Hein, donc on apprend, et ça c'est plus le texte grec qui nous le dit, mais certaines traductions le reprennent et d'autres non, mais voilà, c'est dans le texte. Donc on apprend que les médecins l'avaient ruinée, donc lui avaient pris tout ce qu'elle avait, ne l'avaient pas soignée. Et donc, cela veut dire que cette femme qui était dans cet état de mort, dans cet état de malédiction, eh bien, aucun secours humain n'avait pu la faire sortir de cet état. Aucun recours humain n'avait pu la sauver. Et donc, tout ce qu'avaient fait les hommes pour elle s'était soldé par un échec terrible. Hein, aucune intervention humaine ne pouvait plus rien faire pour elle. Donc, cette femme est touchée d'un sort terrible et se retrouve face à un environnement humain qui ne peut rien faire pour elle. Alors, relisons le texte. Donc, c'est une femme qui atteint de flux de sang depuis 12 ans. Et nous voyons que ce chiffre de 12 ans, il évoque bien quelque chose pour chacun d'entre nous. C'est évidemment les 12 apôtres, etc. C'est un chiffre qui n'est pas anodin. Il a beaucoup de significations dans la Bible. Et il en a une qui est que c'est le chiffre parfait, bien sûr, hein, comme les 12 tribus, etc. Mais dans ce cas, c'est le chiffre de ce qui est achevé, de ce qui est fini, de ce qui ne peut pas avoir de suite. Donc les 12 ans de maladie de cette femme, d'une certaine façon, sont une façon de dire qu'il ne peut plus rien y avoir d'autre pour cette femme que la situation dans laquelle elle était. Cette double malédiction qui s'est abattue sur elle est en plus confirmée par l'affirmation que le temps même ne peut plus rien pour elle. Voilà, donc, comme on pourrait dire avec notre langage, cette femme est vraiment au fond du trou. Cette femme est malade, elle est incurable, elle est misérable, elle est touchée par une impureté terrible. Plus rien, plus aucune solution ne peut se présenter à elle. Et la conclusion, c'est que son être, donc, est devenu le lieu de la mort. Son âme s'écoule d'elle sans que rien ne puisse l'en empêcher. Et finalement, ce détail sur ce flux de sang, finalement, ce détail permet de comprendre qu'en fait, elle est en train de perdre sa vie elle-même dans ce qu'elle a de plus profond. Elle perd sa vie. Les médecins ne peuvent rien faire contre elle. Personne ne peut la sauver. Toute entreprise humaine est néfaste. Et comme la traduction, d'ailleurs, que je suis allée rechercher, du grec, dit, alors en français, on dit « nul n'avait pu la guérir » ou « les médecins n'avaient pu la guérir », mais le grec nous donne une traduction, si l'on prend le texte littéral, serait plutôt « cette femme ayant gaspillé son existence entière en médecin n'avait pas eu la force d'être soignée ». Vous voyez que le texte nous introduit dans une dimension encore plus profonde de l'état de cette femme qui, touchée par la mort, touchée par la vie qui fuit, gaspille son existence à trouver une solution dans les autres, dans les autres hommes, de ceux qui l'entourent, mais est tellement touchée par cette malédiction de mort qu'elle n'a même plus la force de demander à être soignée. La force même, la force qui pourrait lui donner l'énergie pour encore essayer, eh bien cette force même l'a quittée. Donc vous voyez quelle est la situation de cette femme. Situation misérable à l'extrême, qui allie la mort, la faiblesse et l'impossibilité de la guérison. Et voilà que cette femme, elle entend parler de Jésus. Certainement, ce n'est pas dit dans le texte, hein, mais on suppose qu'elle l'entend, elle a entendu parler de Jésus, comme souvent on nous le dit dans d'autres épisodes, ou alors c'est une femme qui le suivait. Nous ne savons pas exactement qui était cette femme et dans quelles circonstances elle se trouve tout près de Jésus. Ce que nous savons, c'est qu'elle est au milieu d'une foule, et le texte nous dit la foule qui étouffe le Seigneur, qui l'oppresse, qui le serre et qui l'étouffe. Voilà encore un détail qui est tout à fait extraordinaire de nous dire que la foule étouffe le Seigneur. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ce détail d'une foule qui étouffe le Seigneur ? On pourrait peut-être supposer que finalement, ce que ce détail nous dit, c'est que la condition de la misère humaine presse le Seigneur jusqu'à l'étouffer de compassion, jusqu'à l'étouffer de tendresse pour toute cette misère humaine qui est symbolisée par cette foule qui l'entoure et qui le presse. Jésus se laisse saisir par la misère de la condition humaine, jusqu'à en être étouffé et étouffé de compassion. Voilà donc ce deuxième détail sur la foule, sur Jésus qui est étouffé par cette foule, n'est pas uniquement un détail qui pourrait donner de la vie à cet épisode. Non, il nous manifeste à quel point la misère, la pauvreté humaine peut aller jusqu'à prendre le cœur de Jésus jusqu'à l'étouffer de compassion. Et en même temps, il donne l'impression, Jésus, de ne pas vouloir se libérer. Il se laisse porter par cette foule comme s'il voulait vivre au plus profond et au plus près cette misère humaine qui l'étouffe. Il se laisse porter, il accepte d'être totalement imprégné, d'être totalement, comme je dirais, encastré par cette foule pour vivre avec elle, pour vivre avec les hommes qui l'entourent, pour vivre avec l'humanité finalement, cette misère humaine, pour la vivre au plus près, pour la porter et pour percevoir, pour vivre cette attente qu'ont les hommes qui l'entourent, qu'ont ces hommes qui le pressent, qui l'entourent et qui attendent quelque chose de lui. Et donc voilà notre chère femme, on nous dit qu'elle s'approche par derrière. Donc elle ne dit rien, elle ne demande rien. Elle s'approche, mais elle s'approche par derrière. Elle ne va pas devant Jésus. Elle va par derrière. Elle y va parce que c'est pour elle le geste d'humilité le plus total. Elle n'ose même pas se mettre devant le Seigneur. Elle va par derrière et elle touche le manteau. Et alors, nous arrivons à un moment qui est extrêmement essentiel du texte, puisque alors, Luc ne nous dit rien du raisonnement. C'est dans l'évangile de Marc que nous savons que la femme se dit « Si je touche les franges de son vêtement, je serai guérie. » Alors, cela demande des explications. D'abord, qu'est-ce que cette frange ? C'est très intéressant parce que l'on pourrait imaginer que cette frange est uniquement quelque chose qui est plus facile à attraper et que la femme se dit, eh bien, si je touche cette frange qui se promène par terre, je vais être guérie. Non, il faut bien comprendre une chose. Et là, je voudrais faire une petite parenthèse pour préciser que contrairement à ce que l'on voit quasiment systématiquement dans tous les films qui sont tournés sur Jésus, sur la vie de Jésus sur terre, etc., malheureusement, je trouve, Jésus est toujours représenté comme habillé comme un quasi-mendiant. Hein, on le voit avec des espèces de tuniques un peu sales, un petit peu élimées, sa pendouille de tous les coins. Voilà. Eh bien, en fait, il semble que ce soit une interprétation qui soit totalement fausse. Pourquoi ? Parce que nous savons, il est probable que Jésus était de formation pharisienne. Nous voyons que beaucoup de gens, on le voit dans les évangiles, hein, il est très souvent appelé maître, il est très souvent appelé rabbi. Ce n'est pas comme ça que l'on interpelle un mendiant, on interpelle à l'époque maître ou rabbi, quelqu'un qui a vraiment la stature d'un maître ou d'un rabbi. Alors, il y a beaucoup d'études savantes qui nous montrent que Jésus utilise, lorsqu'il parle, énormément d'idées ou de paroles qui sont plus ou moins issues, ou de raisonnements qui sont plus ou moins issus dans l'enseignement des pharisiens. Donc, voilà, il n'y a pas de précision dans les textes, mais on pense que Jésus avait un enseignement de pharisiens. Et là, il faut aussi que je vous rappelle que les pharisiens, bien que Jésus s'emporte très souvent contre eux, les pharisiens ne sont pas des bandits, ne sont pas des mauvaises personnes. Au contraire, puisque les pharisiens sont ceux qui, par essence, sont ceux qui respectent et qui honorent le plus la loi divine. Hein, et lorsque Jésus leur fait des reproches, ce n'est pas d'être pharisien, mais c'est de ne pas être digne de ce qu'ils sont réellement. C'est-à-dire, il reproche aux pharisiens de ne pas être pharisiens de cœur, mais de l'être uniquement dans les gestes. Voilà, donc nous reprenons notre lecture de l'épisode de la femme hémorroïde, c'est là où nous l'avions laissé, c'est-à-dire je vous parlais de cette précision sur le manteau de Jésus. Donc nous voyons que, je vous ai expliqué que Jésus est de tradition pharisienne, hein, voilà, ou proche, on ne sait pas trop, mais le manteau qu'il porte et dont on nous dit qu'il a des franges est probablement le manteau tel que la loi le prescrivait avec des franges. Parce que dans le livre des Nombres, qui est très précis, comme je vous l'ai dit, sur la vie quotidienne des Juifs, il est dit que les manteaux doivent porter des franges et que ces franges sont le signe de la fidélité à la loi de Dieu. C'est les franges du manteau qui manifestent que l'on est fidèle, que l'on accomplit la loi de Dieu et que surtout que l'on suit tous les commandements de cette loi dans tout ce qu'elle demande en ce qui concerne le pur et l'impure. Et l'impur et même le port de ces franges fait de ceux qui les portent des consacrés de Dieu. Donc en fait, les franges du manteau sont d'une certaine façon le concentré du sacré, de l'acceptation totale de la loi divine dans tout ce qu'elle demandait et proposait, et donc dans cette interdiction de toucher ce qui était impur, etc. Et vous allez pour comprendre, et maintenant vous comprenez plutôt, bien sûr, pourquoi c'est important, parce que ce que cette femme va faire, c'est qu'elle s'apprête à une double transgression. Elle est impure par son flux de sang, et elle décide de toucher les franges qui représentent finalement et justement la loi qui la condamne. Vous voyez comme cet événement est incroyable. Cette femme impure touche la frange de cette loi, qui manifeste cette loi qui la condamne. Et là, je dirais qu'on retrouve un aspect des femmes qui entourent Jésus et c'est un aspect qui ressort dans quasiment toutes les rencontres que Jésus fait avec les femmes, qui est très particulier. Et on se rend compte que lorsque les femmes rencontrent Jésus, il y a un sentiment de confiance tel que ces femmes qui approchent Jésus n'ont pas la retenue, n'ont jamais de retenue dans la façon dont elles expriment cette confiance. Hein, on pense évidemment à cet épisode qui est un petit peu qui précède celui que nous lisons, qui est l'épisode de la pécheresse, hein, devant tout le monde, vous vous rappelez cet épisode, Jésus est chez un pharisien, donc Simon l'invite, hein, donc c'est pour ça que l'on pense que Jésus lui-même était pharisien, il est invité par un pharisien qui le reçoit, c'est un grand repas, et voilà cette femme qui arrive, qui se jette aux pieds de Jésus devant tout le monde, qui pleure sur les pieds du Seigneur. Et nous voyons combien cette femme, dans l'épisode de Simon, se moque du quand dira-t-on, c'est-à-dire que l'élan du cœur qu'elle porte fait que cela balaye tout sur son passage. Et l'on voit à quel point Jésus est sensible à cette capacité qu'ont ces femmes à parler, à le relancer, elles n'ont peur de rien devant Jésus. Elles n'ont peur de rien et elles manifestent par là la confiance et l'abandon total qu'elles ont envers lui. Et voilà que ce que nous voyons dans l'épisode de Simon, mais que nous retrouverons au fur et à mesure de nos rencontres avec les autres femmes, eh bien, c'est reproduit là, puisque cette femme malade ne pense qu'à une chose, elle n'est guidée que par une chose, c'est par la confiance qu'elle a en Jésus. Elle ne pense même pas à lui en parler, elle ne pense pas à lui en demander, elle arrive par derrière. Hein, vous savez qu'à cette femme en plus, à cette époque, les femmes n'étaient pas très respectées, elles n'étaient pas très considérées. Et donc finalement, une femme malade, impure, parlant à Jésus devant la foule, cela devait lui paraître absolument impossible, alors qu'elle a ce geste de foi incroyable. Elle s'avance et elle est pleine de cette foi en la puissance de guérison du Seigneur. Elle croit tellement que Jésus va la guérir qu'elle jette tout ce qu'elle a. D'une certaine façon, pour elle, c'est le dernier geste, le geste désespéré, le dernier geste avant de sombrer. Et en même temps, c'est le geste de confiance absolue. Et c'est bien comme cela qu'il faut prendre ce geste, comme un geste de confiance absolue, puisque la réponse de Jésus est immédiate et extrêmement étonnante, puisque Jésus guérit sans le vouloir d'une certaine façon. Cela confirme que l'élan de la femme est un vrai élan de foi et non pas un geste de superstition. Mais cela aussi nous apprend quelque chose d'extrêmement fort, c'est que cela nous manifeste que la grâce de l'Esprit qui habite en Jésus, eh bien cette grâce, elle est débordante, elle est totale, elle est immédiatement, absolument efficace et active. Et voilà quelle est l'une des annonces de ce texte grâce au geste de cette femme, c'est que toucher le Seigneur, c'est être guéri. La grâce du Seigneur, la force de l'Esprit qui est en lui est telle que cette force de l'Esprit de vie, elle est débordante, elle déborde du corps même de Jésus. Donc cette femme est guérie puisque le texte nous dit « à l'instant, elle fut guérie ». à l'instant, immédiatement. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas, il n'y a pas de temps. La foi a rencontré l'efficacité de la grâce. Et donc, la suite du texte est étonnante, puisque Jésus cherche qui l'a touché. Il sent cette force de vie qui se déploie hors de lui. Mais l'histoire n'est pas finie, parce qu'il lui reste à rencontrer face à face celle qui en a profité. Alors là, une petite remarque, pardonnez-moi, messieurs, chers frères. Comme d'habitude, les apôtres sont un petit peu à côté de la plaque, si j'ose dire. Ils ne comprennent pas toujours la façon de ce que Jésus fait, la façon dont il agit avec les femmes. On le verra de plusieurs façons. Ici, ils sont là, ils argumentent avec des éléments matériels. Jésus dit « Qui m'a touché ? J'ai senti une force sortir. » Et Pierre argumente de façon rationnelle en disant « Mais non, enfin, il y a plein de monde qui t'a touché. » Enfin, comme si Pierre considérait que Jésus, là, pour le coup, il était un petit peu dans la lune parce qu'il demande qui l'a touché alors qu'on dit que les foules le serrent de près. Voilà, nos chers apôtres, ils ne sont pas dans cette relation particulière. Et alors que la femme, tout de suite, qu'est-ce qu'elle fait ? Lorsque Jésus dit « Qui m'a touché ? J'ai senti une force sortir », tout de suite, la femme, qui se s'est découverte, ne s'en va pas en courant. Elle se jette aux pieds de Jésus. Tout de suite, elle se sent et elle se sait reconnue, découverte, mais au sens fort du terme, elle se sent reconnue et découverte profondément par Jésus lui-même, c'est-à-dire qu'elle comprend que, guérie par Jésus, elle ne peut pas éviter le face-à-face avec le Seigneur. Il faut qu'elle ait ce face-à-face avec le Seigneur, et elle y va, avec courage. Elle se jette à ses pieds, et devant tous, elle parle pour témoigner de cet acte de foi. Elle raconte ce qui lui est arrivé, elle raconte ce qu'elle a fait. Et alors que, je vous ai dit, vous vous rappelez qu'elle avait approché le Seigneur par derrière, qu'elle l'avait approché comme en catimini, eh bien là, elle lui parle face à face, devant tout le peuple. Vous voyez qu'elle est là, quel est le trajet qui a été fait par cette femme entre le début et la fin de cet épisode, qui commence par n'aborder que le Seigneur que par derrière et par la frange du manteau. Et voilà qu'elle est guérie, qu'elle est reconnue par le Seigneur et qu'elle peut se tenir debout et qu'elle peut parler au Seigneur face à face devant tout le peuple. Elle annonce à tout le peuple qu'elle a cru. Et elle annonce que parce qu'elle a cru, le Seigneur l'a exaucée à l'instant même, comme nous le reprécise le texte. Parce que cet élément du temps, eh bien, il est Luc nous le redit deux fois. Hein, elle touche la frange de son manteau et à l'instant même, son flux de sang s'arrêta. Et lorsque elle parle devant le peuple, elle dit... Elle raconte devant tout le peuple pour quel motif elle avait touché Jésus et comment elle avait été guérie à l'instant même. Le témoignage de cette femme est le témoignage d'une guérison qui se fait immédiatement, sans attente, sans palier, sans étape. Il se fait totalement, absolument, à partir du moment où le geste de foi a fait que cette femme a tendu la main vers le Seigneur pour le toucher. Et voilà que ce texte finit par cette si jolie bénédiction de Jésus qui l'écoute et qui lui dit « Ma fille, va, va ma fille, ta foi t'a sauvée ». Et ici, il convient de remarquer que « ma fille » telle qu'il est... ce terme tel qu'il est utilisé par Jésus, en fait, n'est utilisé que une ou deux fois dans les évangiles de cette façon-là. Hein, et on parle bien sûr des filles, etc., des filles et des fils. Mais Jésus, lorsqu'il s'adresse à une femme, il y a une autre fois peut-être, mais je n'en suis pas sûre. En tout cas, c'est tout à fait exceptionnel la façon dont le Seigneur s'adresse à cette femme qui a été sauvée. C'est pour manifester que c'est sa foi qui a fait que cette femme est devenue fille du Seigneur. Nous reviendrons plus tard sur la façon dont Jésus interpelle les femmes, dans la façon dont il les appelle, parce que chacune des interpellations de Jésus manifeste quelque chose de la façon dont il porte ces femmes dans son cœur. Mais cette interpellation de fille est tout à fait particulière et ce n'est là encore pas du tout un détail sans importance. C'est l'affirmation qu'il a réinstallée. Cette femme qui était perdue dans la communauté, qu'elle a été réinstallée comme fille. Vous savez, un petit peu, c'est le même terme que celui qui est utilisé lorsque, dans l'évangile de Jean, on parle de la fille de Sion. Hein, fille de Sion, cette femme guérie, qui a parlé face à face avec le Seigneur et est réinstallée dans sa vocation de fille, de fille du Seigneur, dans sa vocation de fille du peuple, de fille de Sion. Voilà, puisque nous arrivons à la fin de cette lecture, vous voyez, peut-être, j'espère que vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que j'aime autant cet épisode, parce que à travers une histoire qui apparaît peut-être comme une anecdote, nous percevons la force de ce qui se dégage de ce texte, la foi. La confiance quand tout semble perdu, l'inventivité, la puissance de l'amour agissant du Seigneur. Voilà un épisode, finalement, qui nous donne les éléments essentiels de notre foi et de notre relation au Seigneur. Alors cet épisode, il est, comme je vous l'ai dit, il est mentionné par trois évangiles. Et avant de nous quitter, je voudrais vous faire remarquer, comme je vous l'ai dit, puisque rien n'est le fruit du hasard, je vous invite à regarder où ce texte est placé, parce que cela va nous permettre de comprendre encore plus la portée de ce texte. Il est placé après l'épisode où les apôtres ont vécu la tempête apaisée. Les apôtres ont assisté à la guérison du démoniaque. Juste après, ils vont assister à la résurrection de la fille de Jaïr. Après cet épisode, nous allons découvrir le départ en mission des 12. Nous allons lire ensuite la multiplication des pains. Et ainsi, nous voyons que l'épisode de cette femme hémorroïse, elle se place dans un contexte où éclate la véritable identité du Christ qui commande aux éléments, qui commande aux puissances du mal, qui commence aux puissances de la mort elle-même. Et dans le même temps, tous ces épisodes font éclater la présence de la grâce comme élément fondamental et agissant du don de vie du Seigneur lui-même, tel qu'il nous le donne et tel qu'il nous l'offre par sa vie et sa résurrection. Voilà, eh bien je vous laisse en compagnie de cette nouvelle amie que nous avons grâce à l'évangile de Luc. Et je vous souhaite une très bonne soirée.